Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radio Graphite, graphite.net, et animée par l'équipe des Films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast, disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission, culture-prohibée.blogspot.com. Au sommaire aujourd'hui, une émission spéciale SF fantastique et horreur avec Blood Feast et 2000 Maniacs, deux films de 63 et 64 signés Herschel Gordon Lewis qui sont sortis chez ESC Éditions. Après 2000 Maniacs, on va rester un peu chez les Rednecks avec La Nuit de l'Épouvantail, un film de 1981 de Frank de Felita. Ça, c'est sorti chez BQHL. On va également aborder Rêve sanglant, un film de 1982 de Roger Christian qui est sorti chez Rimini Éditions. On partira chez Carlotta Film pour aborder deux films de Stephen Sayadian, à savoir Café Flèche de 82 et Docteur Caligari de 1989. On rendra un petit hommage à David Lynch, même si on en refera certainement un ultérieurement, à travers une sortie ESC Édition de son film un peu maudit, hein, du Dune de 1984. Autre film maudit, un film de 1984 également, Conan le Destructeur de Richard Fleischer, qui est lui sorti chez BQHL, qu'on abordera. On causera de L'Enfant Miroir, superbe pépite éditée par Extra Lucide Film, le film de Philippe Ridley de 1990. On causera de JCVD, l'ami Jean-Claude Van Damme, hein, pour une de ses prestations les plus mémorables, hein, à savoir celle dans Time Cop de Peter Yams, un film de 94 qui est sorti chez ESC Éditions. Et enfin, on abordera la dernière, production, réalisation du Canadien le plus rigolo de l'histoire du cinéma. Je parle de David Cronenberg et on va parler des Linceuls, hein, donc le film Les Linceuls, qui est donc un film de 2024 et qui est sorti chez Pyramide Film. L'équipe de Culture Prohibée tient à remercier tout particulièrement Karine Bach, Aude Dobuzinskis, Maureen Dubu, Sandrine Hiver, Lucie Mautier, Timothée Tricard, Jean-Pierre Vasseur, Patrice Véry et François Villa pour leur aide sur cette émission. À mes côtés, pour causer de tous ces mauvais genres, de tous ces films que l'on adore, je suis entouré de Damien Demey, la bête noire de Compiègne, ce fameux archéologue, mais attention, pas n'importe lequel, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oublié, co-animateur de Projection Perdu, le podcast de la Chimera Tech disponible sur YouTube. Bonjour Damien.
Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
Également présent dans ce studio, Thomas Roland, dit le loup-garou Picard, qui, chaque nuit de pleine lune, rédige de sanglantes chroniques pour divers médias. Bonjour Thomas.
Bonjour Jérôme, bonjour Damien, et bonjour à toutes les Scream Queens qui nous écoutent.
En parlant de Scream Queen, eh bien là, on va pouvoir parler de celle qu'on peut qualifier d'une des premières Scream Queen de l'histoire du cinéma, hein. Là, je veux parler de la belle Connie Mason, qui a été playmate, hein, d'ailleurs, du mois dans le Playboy de juin 63. Ça tombe bien, d'ailleurs, 63, c'est l'année de sortie de Blood Feast, le premier des films dans lequel elle joue, des films réalisés par Herschel Gordon Lewis et qui vient de ressortir là chez ESC Éditions.
Blood Feast est considéré comme l'un des premiers films gore de l'histoire du cinéma et en effet, dès le début du film, ça coupe. Ça coupe rapidement dans un bain mousseux où une dame rentre chez elle en tant qu'il y a peut-être quelqu'un de dangereux à l'extérieur et en fait, la personne dangereuse n'est pas à l'extérieur vu qu'il est caché chez elle et attend qu'elle prenne son bain. Alors, c'est un film qui a un très petit budget, ça se voit vite. Les acteurs aussi sont souvent en train de cabotiner un peu partout comme ils le peuvent. Mais c'est un film qui n'hésite pas à se montrer macabre et grotesque, avec plein de membres découpés qui se baladent un peu partout. Il y a souvent des plans où ils aiment bien montrer qu'il y a une partie du corps qui a été découpée et montrer avoir vraiment cet effet de chair qui vient d'être cisaillé. Ce qui est intéressant avec Blood Feast, en fait, déjà, c'est l'histoire en elle-même, parce qu'on suit quelqu'un qui prépare un dîner sanglant, on lui passe une commande. Ce dîner, il doit la servir justement à la Connie Mason, vu que sa mère l'a commandé. Et cette personne qui doit faire ce repas, c'est un certain Fuad Ramsès. Et la particularité, c'est que lui, il a une passion pour l'Égypte. Et cette passion le pousse à essayer d'honorer une des déesses en préparant un repas comme elle l'appréciait. Donc à base de membres humains et de sacrifices de jeunes filles. Les bases de ce qui arrivera plus tard un peu avec le slasher.
C'est un film produit par David Friedman. Alors Friedman, c'est un producteur de nudies, hein, de ces films assez inoffensifs où on a des gens tout nus, alors souvent sous la base d'un reportage sur le naturisme ou sur la base d'un film éducatif pour prévenir vos enfants, attention, ne faites pas n'importe quoi au niveau des relations sexuelles, juste pour pouvoir montrer quelques corps nus. Et c'est le genre de film qui cartonnait dans les drive-in. Et là, Friedman, pour un tout petit budget, il cherche à renouveler une formule. Enfin, il cherche à faire quelque chose qui fasse date. Donc, il demande à son pote, Herschel Gordon Lewis, qui réalisait des nudis aussi, d'essayer de trousser quelque chose pour une somme dérisoire. Et il se trouve que... Ils ne le savent pas, mais ils sont en train de révolutionner, en fait, le cinéma d'exploitation à travers ce film, et puis le suivant dont tu vas nous parler, là, qui est sorti chez ESC également, et qui, à mon sens, moi, je le trouve, est plus réussi. D'ailleurs, il a été remaké, hein, et bon, ce remake de Brigadoon, donc de Minnelli, hein, signé Herschel Gordon Lewis. D'ailleurs, Herschel Gordon Lewis, il a toujours dit non, c'est pas vrai, c'est pas un remake de Brigadoon. On rappelle quand même que dans Brigadoon, il y a Van Johnson et Gene Kelly. Ils sont en Écosse et alors ils découvrent un village fantastique dans les Highlands qui réapparaît tous les 100 ans dans son jus de 1754. Et il tombe amoureux d'une des filles du village de 1754, mais qui donc est appelée à disparaître. C'est la même histoire en fait que Devilmaniacs, hein, cette histoire de faille spatio-temporelle. Sauf que c'est moins sympa pour la bluette amoureuse, là, mon cher Damien.
2000 maniaques, au départ, on comprend très vite ce qui va se passer, c'est-à-dire qu'on a des gens qui sont sur l'autoroute, qui détournent les voitures pour aller vers un endroit précis. Cet endroit précis, c'est la petite ville de Pleasant Valley qui célèbre son 100e anniversaire. En fait, c'est assez étrange parce que l'anniversaire qu'ils fêtent, c'est le fait qu'il y ait des nordistes qui arrivaient et qui aient dévasté leur village de sudistes. Et très vite, on le comprend parce qu'ils ont tous des petits drapeaux de sudistes qui sont très contents d'agiter devant les touristes. Il y a 6 touristes qui vont être pris pour piège là-dedans et qui vont se retrouver dans des festivités dans lesquelles ils vont être obligés d'un peu de participer de force. Et ces festivités, c'est toujours des jeux extrêmement cruels qui les mènent vers des morts qui sont pas agréables. Alors, on retrouve Connie Mason. Il y a un autre truc que j'ai vu, c'est qu'il y a un certain Andy Wilson qui joue dans le film et qu'il a un tout petit rôle juste à la fin de policier. Mais c'est le père de Luke et de Owen Wilson qui, eux, sont des acteurs beaucoup plus accomplis parce qu'ils ont joué dans moins de films fauchés. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a toujours du macabre. Par contre, il maîtrise un peu plus. Il a beaucoup plus d'ailleurs d'idées. Déjà, c'est intéressant d'avoir une ville isolée. Si le film s'appelle 2000 maniaques, c'est parce que dans cette ville, il y a 2000 habitants. Les touristes s'y retrouvent piégés. Et moi, au départ, quand j'ai vu les drapeaux de sudistes, je me suis dit, bon, on part un peu sur une idée de René Film. Et quand on a le retournement à la fin, on comprend pourquoi est-ce qu'ils avaient tous ces drapeaux-là. Mais on a aussi un petit effet de sauf gothique avec cette idée de ville hantée par son passé, d'une ville aussi en décrépitude, parce qu'ils font des événements, ils essayent d'attirer les touristes parce que c'est pas là où ils iraient normalement. Par contre, il y a plein de meurtres inventifs. Par exemple, il y a la course de tonneaux. La course de tonneaux, le principe est très simple, c'est que vous mettez des participants en haut d'une colline, ils ont un tonneau, ils rentrent dans le tonneau et on fait tourner le tonneau jusqu'en bas de la colline et le premier qui arrive gagne. Là, ils reprennent, sauf qu'il n'y a qu'un seul participant et qu'en plus, on a mis des clous dans le tonneau pour être sûr que la personne qui est dedans y reste. Il y a un concours de pesée ou de Miss qui est assez bizarre avec une énorme pierre au-dessus de sa tête. Elle ne veut pas aller en dessous parce qu'elle sait ce qui va lui arriver, mais elle ne va pas vraiment avoir le choix. L'autre élément, c'est que vu que c'est une ville qui, en fait, va y avoir beaucoup, beaucoup de musique, je trouve même le film un peu trop bruyant. Mais le truc qui est intéressant, c'est que quand on regarde les crédits à la fin, on a le groupe qui fait la musique qu'on retrouve beaucoup dans le film, qui est le groupe de musique qui introduit un peu le film. Et ce groupe, il s'appelle Pleasant Valley Boys, qui est un titre parfait pour jouer dans une ville qui s'appelle Pleasant Valley. Il y a une dernière chose qui est mise en avant, et c'est ce que Jérôme disait avec 2000 maniaques, c'est qu'on a un duo de fermiers plouks un peu, moi je trouve insupportable, mais qui sont là justement pour avoir tout cet enchaînement comique. Et contrairement donc au premier film, ici on essaie d'introduire de l'humour dans toute la violence qui est présente.
Mais d'où viennent les Pleasant Valley Boys? Mais oui, c'est aussi simple que ça, c'est un groupe monté pour le film, et qui est le chanteur et le compositeur de la chanson du film? Herschel Gordon Lewis en personne, je vous le donne en mille, avec l'aide d'un certain Larry Wellington à la musique. Bon, faut savoir que Herschel Gordon Lewis, il réalise, bien sûr, donc il chante, voilà, il compose la musique avec Larry Wellington, il scénarise le film, il fait la photo aussi, parce que bon, il peut quand même pas embaucher du monde, quoi, faut pas exagérer, quoi. Et donc, bon, ça en dit long quand même sur le... Bon, alors c'est un budget, je crois que c'est le double ou le triple du film précédent, mais c'est assez rigolo. Bon, pour en savoir plus sur ces films, je vous conseille, alors vraiment dans ces éditions, là, ce qui est super, c'est qu'il y a des commentaires audio. Et dans les commentaires audio, on apprend plein de trucs, parce que ce sont des commentaires audio avec Herschel Gordon Lewis et David Friedman. Et on apprend, entre autres, qu'au départ, le titre devait s'appeler 5000 Maniacs. 5000 Maniacs. Mais qu'en fait, ils n'avaient pas assez de budget, donc ils sont abattus sur 2000 Maniacs. Voilà, ils se sont dit, c'est plus prudent, c'est beaucoup plus prudent. Voilà. Enfin bref, 2000 Maniacs et Blood Feast, donc c'est sorti chez ESC Éditions. Les éditions sont superbes. Hein. Et voilà, on vous les conseille vivement. C'est des films importants, puisque c'est les vrais premiers films gore d'exploitation de l'histoire du cinéma. Donc avec un peu de redneck dedans. Et on va rester chez les rednecks avec l'ami Thomas. Alors, non pas que Thomas soit un redneck, bien, bien loin de moi cette idée. Je n'oserais pas, vu que c'est un loup-garou. Il ne peut pas être un redneck. Aïe, 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 il sort ses griffes. Oh, j'ai peur. Pour parler d'un film qui s'appelle La nuit de l'épouvantail, un film de Franck De Felita qui est sorti chez BQHL, alors qui est un téléfilm, mais bon, franchement, il en remontre à pas mal de films de cinéma.
On the CBS Saturday Night Movies, this gentle man saved this little girl's life, but they accused him of harming her.
Do this ourselves.
And he was tragically murdered. Now, one by one, the men of this town are dying. Who is his avenger? Is it the dead man's grief-stricken mother?
They killed my boy!
The little girl who loved him.
I know what you did to Baba.
Or could it be the Scarecrow? Dark Knight of the Scarecrow, coming up next.
Il a été diffusé pour la première fois en France, à la télévision, dans l'émission Les Accords du Diable, que des cinéphiles dingues comme nous en suivaient quand on était plus jeunes. Ça passait sur la 5 le lundi soir.
Avec Sangria.
Avec Sangria.
Attention, hein, c'est pas la boisson. Hein.
À consommer avec modération. Et donc, c'est d'abord été sorti en VHS en France sous le titre Les Fleurs de Sang. Donc, la nuit de l'épouvantail est plus proche du titre original Dark Knight of the Scarecrow. Alors, que ça raconte quoi? C'est Larry Drake. Hein, Larry Drake, avant qu'il fasse des rôles de psychopathe, là, il incarne un débile mental. Il a 32 ans à l'époque, il incarne un débile mental, Booba, qui se lie d'amitié avec une petite fille. Ils s'entendent très bien, ils jouent dans les champs, etc. etc. Et un jour, la gamine, elle veut rentrer dans une propriété où il y a des nains. Elle veut voir les nains de près. Manque de bol, il n'y avait pas que des nains, il y avait aussi un Rottweiler quand même assez méchant. Donc, en fait, Booba la sauve, Mais les gens pensent que Booba a violenté la petite. Hein, il présente la petite ensanglantée à sa mère. Et tout le monde pense que Booba a violenté la petite. Alors, il y a Charles Durning qui joue un facteur crypto-fasciste, un peu pédophile sur les bords, voire peut-être même beaucoup, qui lui déteste Booba et avec trois de ses potes, il décide d'en découdre. Donc, ils le chassent. Booba se planque dans un costume d'épouvantail dans un champ. Et là, ni une ni deux, ils exécutent comme s'ils étaient au peloton. Mais manque de bol, ils apprennent que la petite est bien vivante et que Booba, en fait, l'avait sauvée de l'attaque du Rottweiler. Après, bien sûr, ils passent en procès, les quatre salopards, un procès bâclé où ils sont acquittés et puis ils sont tout contents. Mais quelques jours plus tard, un épouvantail apparaît sur la propriété de l'un d'eux. Et là, ça a commencé à se corser. Alors, La Nuit de l'Épouvantail, c'est un vrai film d'épouvante. Vraiment un vrai film d'épouvante. Très bien foutu. Bon, on voit que c'était rafistolé pour la télé. On voit les fondus au noir pour la télé, les cuts au noir pour la télé. Et c'est un film qui joue vraiment la carte du suspense, de l'épouvante, avec... une façon de jouer sur les hors-champs qui joue vraiment bien sur le suspense avec des meurtres assez inventifs, assez cruels, assez pervers. Et c'est vraiment aussi un portrait d'une certaine Amérique, hein, avec les cutéreux, la chemise à carreaux, la casquette rouge John Deere, le jean délavé. On est vraiment un peu sur le film à la fois d'épouvante et le film de cutéreux. Il s'agit de la réalisation la plus célèbre de Frank de Felita. Frank de Felita qui était romancier aussi, que Stephen King détestait. Hein. Mais je pense que ces autres films n'ont pas été distribués en France. En tout cas, c'est son film le plus célèbre, enfin son téléfilm le plus célèbre. Ça vaut largement les films d'épouvante qu'on peut voir encore aujourd'hui en salle. Et je le recommande vivement pour ceux qui sont amateurs de sensations fortes et de vrais films fantastiques, glauques et ambigus.
C'est vrai que La Nuit de l'Épouvantail fait partie de ces œuvres qui se bonifient avec le temps et qui sont à mettre dans les sommets de ce qu'a produit la télé américaine, des téléfilms comme Duel, qui était sorti au cinéma de Spielberg, par exemple, ou je pense aussi à Ça de Tommy Lee Wallace, qui était quand même assez impressionnant aussi. Ça fait partie de ces œuvres quand même de qualité. Et là, la copie qui est fournie par BQHL est sublime. Hein. La qualité de l'image est assez incroyable. Je pense qu'on ne l'avait jamais vue dans de telles conditions. Maintenant, je vais parler moi d'un film qui date à peu près de la même époque, qu'un film qui, moi, m'avait bien plu. Quand je l'avais vu à l'époque glorieuse des vidéoclubs, hein, parce que nous, on allait louer nos films, mon cher Thomas, puisque tu es en mode nostalgie aujourd'hui. Il y avait Les Accords du Diable, mais il y avait aussi les vidéoclubs, hein, pour voir du fantastique et de l'horreur. Et il y avait un film qui s'appelait Rêve sanglant, un film de Roger Christian, là, qui vient de ressortir chez Rimini Édition, qui est un film de 82, qui était vraiment un film particulier, où on voit au début un jeune homme au visage un peu énigmatique, comme ça, qui débarque dans un parc où il y a des enfants, qui essaye de se noyer. On ne comprend pas bien ce qui se passe. Il a des traces. On devine qu'il y a peut-être eu une lutte auparavant. C'est très, très mystérieux, tout ce début. Toute cette intro-là, elle est très frappante. Et on est déjà dans le ton du film parce qu'en fait, c'est très contemplatif, c'est très envoûtant. C'est très étrange. Alors, Roger Christian, il est passé à la postérité pour une mauvaise raison. C'est-à-dire qu'il a signé un film qui est un film de propagande pour l'église de Scientologie, un film assez catastrophique, il faut le dire, avec John Travolta, qui s'appelle Battlefield Earth. Mais avant ça, sa carrière démarre sous les meilleurs auspices. Et en 78, il reçoit l'Oscar des meilleurs décors pour Star Wars, pour La Guerre des Étoiles. C'est pas rien quand même. Il reçoit ensuite celui du meilleur court-métrage pour The Dollar Bottom en 81. Et c'est donc juste après cet Oscar qu'il va s'atteler à la réalisation de ce film très très étrange. Ce jeune homme, il est recueilli et interné dans un hôpital psychiatrique. Il devient le John Doe numéro 83. Vous savez qu'aux États-Unis, quand on n'a pas l'identité de quelqu'un, on l'appelle John Doe pour un garçon, Jane Doe pour une femme. Et on va, nous, les spectateurs, avec une une psychiatre qui essaye vraiment de l'aider, essayer de découvrir ce qui a amené ce jeune homme au suicide, le rôle que joue sa mère dans son histoire, et surtout on va très vite comprendre que le personnage central, qui est joué par un acteur d'ailleurs avec un physique assez particulier, plutôt beau, mais en même temps avec un visage qui capte comme ça, qui est inquiétant en fait. Il est beau et inquiétant à la fois. Un acteur qui s'appelle Zeljko Ivanek. Et en fait, on va très vite comprendre que ce personnage, au début, on est un peu perdu. Et on comprend qu'en fait, il a la particularité de pouvoir projeter ses rêves et ses cauchemars dans l'esprit de ceux qui l'entourent. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je fais un cauchemar et je le transmets à Thomas qui va se mettre tout à coup à vivre mon cauchemar. Voilà, c'est une idée assez géniale. Et on anticipe en cela les griffes de la nuit de Wes Craven. Ça va donner lieu à des scènes assez étonnantes parce que on ne sait jamais, en fait, pendant longtemps dans le film, on navigue entre rêve, réalité, on ne sait pas trop... On ne sait pas trop où on en est. Et c'est un vrai film fantastique, du coup, parce que c'est un film d'ambiance. C'est un film qui est bien loin du gore qui est promis par son titre français. Hein. Ce n'est pas vraiment des rêves sanglants. Hein. C'est par contre vraiment étonnant, parce que celui qu'on voit au départ comme un tueur, comme une menace, quand on le voit débarquer au début, se diriger vers ses enfants, tout ça, là, on se dit « Oh là là, il est menaçant, il paraît dangereux », mais en fait, non. Et en fait, c'est aussi un film qui va évoquer Carrie, parce que il n'est pas responsable, en fait, des dégâts qu'il occasionne. Et on va très vite comprendre que c'est l'éducation et sa mère, surtout, qui ont conduit à un trauma qui l'amène là. C'est une relation maternelle toxique. Et ce qui est super en plus, c'est que toutes les scènes de cauchemar exploitent des vraies peurs du quotidien. Donc on a une sorte de catalogue comme ça de scènes qui sont les illustrations de nos peurs les plus rationnelles qu'on peut avoir au quotidien. Le fait d'avoir un inconnu dans la maison, c'est le fait d'être poursuivi par une voiture dont on ne connaît pas le conducteur, hein, le syndrome duel de Spielberg, on va dire, voilà. C'est le fait de se faire opérer puis de se réveiller pendant l'opération, parce que ou de ne pas se réveiller, parce que l'anesthésie a foiré. Et puis, il y a une scène qui est vraiment très, très, très impressionnante, c'est une scène d'électrochoc. Qui est vraiment très spectaculaire. Et en fait, ça va nous donner un film fantastique qui emprunte une certaine atmosphère, une sorte de spleen baudelairien qui est entretenu par la photo très contrastée de Roger Pratt. Elle est à la fois sombre et ouatée. Ce film, il est comme hanté quelque part. Et il est à redécouvrir absolument. Pour moi, c'est un vrai film fantastique où l'onirisme et la mélancolie sont portés donc par un casting fort judicieux, et en particulier cet acteur-là dont le regard semble empreint d'une tristesse incroyable liée à une existence cabossée. Ça s'appelle Rêve sanglant, c'est de Roger Christian, c'est un film de 1982, c'est à réhabiliter, c'est disponible chez Rimini Éditions. Écoutez Culture Prohibée. tourné, enfin sorti la même année, mais en fait, hein, c'est un film un peu plus vieux que ça. Le fameux Café Flèche de Stéphane Sayadian, là, qui sort chez Carlotta, accompagné, parce qu'en fait, il est tourné en 80, mais il est sorti en 82 dans les salles françaises, qui sort accompagné d'un autre... d'un autre méfait, en fait, de Sayadian, qui s'appelle le docteur Caligari. Alors là, on est dans quelque chose de coquin, mais aussi de très sombre, en fin de compte, parce que on a l'impression qu'on... Ceux qui veulent voir, en tout cas, un film avec de l'érotisme, avec des parties de jambes en l'air et tout, peuvent rebrousser chemin. C'est un film très sinistre, ce Café Flèche, qui, d'ailleurs, je vous invite dans les bonus à écouter l'entretien avec Sayadian qui raconte le tournage, hein. Voilà, c'est assez intéressant. Et c'est un film qui se passe après la bombe, en fait. Et après la bombe, il y a ceux qui peuvent faire l'amour et ceux qui ne peuvent pas. Donc voilà, donc il y a les positifs et les négatifs. Et les négatifs, ils vont au Café Flèche pour prendre leur dose de sexe en regardant les positifs faire l'amour. Et c'est un OVNI, c'est un objet filmique non identifié. C'est un film très étonnant, très avant-gardiste. C'est un film où le sexe est triste, hein. Il n'a même rarement été aussi triste à l'écran, je crois, hein. Et c'est un vrai objet particulier parce qu'il y a une vraie volonté de produire une œuvre artistique, en fait, en vérité, de la part de Sayadian. On a un peu l'impression que c'est Chris Marker qui fait un porno, quoi. C'est le Chris Marker de La Jetée qui fait un porno. Il y a un peu de ça. C'est très, très étonnant comme film. Et puis, il y a en même temps une sorte de parabole. Bon, il ne faut pas oublier qu'on est en 80. Il y a l'arrivée du sida dans les années 80. Il y a aussi l'importance que prend la drogue. Et là, on a l'impression d'avoir aussi un film sur le manque, sur la toxicomanie, qui est assez prégnant. C'est une vision où s'entrecroise un peu, c'est rigolo. C'est un côté comédie musicale aussi, les univers du cabaret de Bob Fosse, avec, je ne sais pas, peut-être un peu le côté Blade Runner de Ridley Scott. C'est un truc très stylisé, en fait. Alors bien sûr, toute proportion gardée, parce qu'il n'y a pas de pognon, hein. Mais c'est vraiment un truc très stylisé et... c'est la froideur, je trouve, du film. C'est aussi une sorte de mise en abîme de nos sociétés modernes où le capitalisme et le désir ne font pas bon ménage, en fait. Pour moi, il y a vraiment de ça. Et on pense aussi au Prédateur de Tony Scott, je trouve. Toute proportion gardée, bien sûr, hein, c'est pas un film de ce niveau-là, mais... C'est quand même un film étrange, quoi, hors norme, quoi.
Oui, avec une bande-son aussi assez étrange. À un moment, il y a un couple sur scène qui font l'amour, et puis on entend une sirène qui annonce un bombardement, un truc comme ça. C'est étrange, c'est vraiment un film étrange.
Et il est complété par Carlotta, par Docteur Caligari, qui est un film culte aussi, hein, de Sayadian, qui est un film de 89, qui est aussi très... très expérimental, mais qui est par contre... Alors, il y avait des éléments un peu comiques, hein, dans le précédent, même si c'est un film étrange. Mais là, on est vraiment sur l'antithèse de Café Flèche, quand même, tout du moins, dans sa manière de manier le comique. Voilà, il y a un côté plus rigolo. Après, sur le regard porté sur la société, il est tout autant acide, en fait. Et ceux qui s'attendent à voir une sorte de remake du film de Robert Wiene, bon, voilà, rebroussez chemin. Par contre, le film s'inscrit vraiment comme une suite dégénérée, en fait, du film de Robert Wiene, parce qu'il reprend quand même l'idée à la fois des médecins et des décors un peu étranges, un peu biscornu, là, voilà, qu'on voit dans le film original. Là, l'histoire est assez simple. Les Van Houten, il est excédé, il est impuissant, toujours pareil, hein, l'impossibilité d'avoir des relations sexuelles. Il n'arrive plus à assumer la libido incontrôlable de son épouse paranoïaque, qui est jouée par Laura Albert, et il la remet au bon soin du docteur Caligari, psychiatre aussi renommé que dangereusement Sinoc, qui mène des expériences douteuses sur ses patients à renfort de décharges électriques et de mélange d'extraits d'hypothalamus. Alors que le personnel commence à se rebeller contre ses méthodes, l'ingénu Les s'en va voir par lui-même ce qui se trame derrière les murs du CIA pour Caligari's Insane Asylum. Il ne sera pas déçu du voyage. Et puis, il y a cette manière de diriger les acteurs. C'est à la demande du réalisateur, hein, d'accord, d'ailleurs, hein, parce que tous les bonus et tout. Là, on apprend plein de choses sur comment les films ont été faits. Et il leur demande de jouer de la façon la moins naturelle possible. Donc, ça donne des textes déclamés, très étonnants. Du coup, ça devient une sorte de parodie. Alors, c'est plus assumé d'une parodie du cinéma avant-gardiste de l'époque, un peu, les films comme Liquid Sky, tout ça. Tous les films qui vont avoir un certain retentissement à l'époque. Et puis, il y a des scènes complètement dingues qui anticipent, par exemple, le cinéma de Tsukamoto, des choses comme ça. Il y a une scène qui est assez incroyable où l'épouse embroche son époux avec son bras brûlé, qui se transforme en énorme phallus. Donc elle l'embroche avant de le faire rôtir, comme un poulet qu'on fait rôtir. C'est vraiment très, très étrange. C'est une vraie proposition de cinéma singulière et tellement culte qu'aux États-Unis, elle est projetée tous les ans. Alors, à un festival qui aujourd'hui est un festival mainstream, mais qui l'a pas toujours été, elle est projetée tous les ans au Burning Man Festival, qui est assez culte. Voilà. Donc, on ne peut que vous conseiller, si vous êtes amateur d'objets filmiques non identifiés, de voir donc Café Flèche et Dr Caligari, qui sont tous deux sortis là en double programme chez nos amis de Carlotta Film. Mais j'ai bien assez parlé comme ça, et je vais laisser mes amis s'exprimer sur un film que son propre réalisateur n'a jamais totalement adoubé. C'est Dune, version de David Lynch, un film de 1984, qui vient de sortir dans une version sublime chez ESC, là, en 4K. Mon cher Thomas, je pense qu'en plus, c'est l'occasion pour toi de rendre hommage à ce cinéaste qui nous a quittés durant l'année 2025 et que tu aimes particulièrement.
Un commencement est un moment d'une délicatesse extrême. Sachez donc que nous sommes en l'an 10191. En ce temps, la substance la plus précieuse de l'univers est le mélange, l'épice. L'épice accroît la longévité. L'épice n'existe que sur une seule planète dans tout l'univers. Cette planète, c'est Arrakis, connue aussi sous le nom de Dune.
Oui, enfin, j'ai un rapport avec David Lynch assez ambivalent quand même. Hein. J'ai eu mes périodes où j'adorais, j'ai eu mes périodes où j'adorais moins, enfin bref. Mais j'ai réévalué du coup, suite à sa mort, vu que j'ai pu revoir certains de ses films sur grand écran à l'occasion d'une introspective, sauf Dune que j'ai revu en Blu-ray. C'est quand même son film le moins personnel. C'est quand même le film où il a rencontré beaucoup de soucis avec la production, avec Dino De Laurentiis et en particulier sa fille, Raffaella De Laurentiis. Alors, Dune, c'est une adaptation du roman de Frank Herbert. Personnellement, je n'ai pas lu Frank Herbert. Je suis plus fantastique que science-fiction. Donc, je ne peux pas comparer les livres et le film. L'histoire, en gros, c'est un film de guerre, en gros, un film de guerre dans l'espace, un space opéra, où il s'agit de coloniser une planète pour ses ressources naturelles, voilà, en gros. Et il y a une histoire de Messie, incarnée par Kyle MacLachlan, qui va atterrir sur Dune, qui va se retrouver parmi une tribu d'indigènes de la planète Dune, et donc combattre les méchants impérialistes, incarné par notamment le baron Harkonnen. Et donc, le baron Harkonnen, pour moi, c'est le personnage le plus lynchien de Dune. Hein. Notamment, je me souviens, j'avais vu le film aussi en salle à sa sortie à l'époque. C'est le premier David Lynch que je voyais en salle. Et je me souviens de cette scène où le baron Harkonnen, il martyrise un jeune homme. Enfin, une scène assez étrange, assez malsaine. Enfin, du Lynch, quoi. Ça m'avait vraiment marqué à l'époque. Et encore aujourd'hui, on se dit, ça, c'est du Lynch. Contrairement à beaucoup d'autres passages du film. Donc, c'est un film assez étrange, qui a une personnalité, une esthétique assez particulière, qui mélange les époques. Parfois, ça fait penser à du steampunk. Enfin, il y a tout un tas de mélanges comme ça, très esthétiques. Comme il est dit dans les bonus, hein, c'est pas un film pour lui. Par exemple, les grandes scènes de bataille, il est pas à l'aise. à des problèmes de notion de l'espace, de raccord. On voit qu'il n'est pas à l'aise. Il y a un truc, il y a quelque chose de singulier dans ce film, mais on ne reconnaît pas totalement Lynch.
Autre film mal aimé, parce que le Dune de Lynch, aujourd'hui, on ne le dit pas trop, mais il était mal aimé quand même à sa sortie. Hein. Autre film mal aimé, c'est un film de Richard Fleischer. C'est un film qui est une suite, un quasi chef-d'œuvre, on peut le dire, de la fantasy, hein, qui était un film de John Milius. C'est Conan le Destructeur avec un tout jeune Schwarzy.
Et on est encore chez Dino De Laurentiis, encore une fois, hein, qui était quand même un grand producteur, hein, qui avait sa patte. Hein. Et donc, il faut se souvenir que pour réaliser Conan le Barbare, John Milius s'était inspiré d'un des grands films de Richard Fleischer, Les Vikings. Et pour boucler la boucle, Raffaella De Laurentiis, encore elle, propose à son père d'engager Richard Fleischer, qui venait de terminer Amityville 3D, pour réaliser donc Conan le Destructeur.
Vous écoutez Culture Prohibée spéciale SF Fantastique et Horreur.
À l'époque, Richard Fleischer ne bénéficiait pas encore de la vague de réhabilitation qui le place aujourd'hui là où il aurait toujours dû être. Par conséquent, son film a souffert de la comparaison avec son aîné et provoqué rire et colibés de la part de nombreux cinéphiles. Oui, Conan the Destroyer est fort différent de Conan the Barbarian et de la part de Richard Fleischer, il s'agit d'une réelle volonté de se rapprocher des écrits de Robert E. Howard et de se démarquer du film de John Milius en y insérant de l'humour et plus d'action au détriment de la violence et de la philosophie. Encore aujourd'hui, le film se traîne une mauvaise réputation, mais celle-ci est-elle réellement justifiée? Pour ma part, cela faisait quand même quelques années que j'avais réévalué le film, le trouvant plutôt sympathique. Le film commence très vite par une scène d'action dans laquelle on retrouve Conan, brisé par la mort de son épouse, en train d'oscir des cavaliers qui veulent le capturer. Bon, il s'agissait d'un simple malentendu car ces braves chevaliers voulaient l'emmener devant la reine Taranis pour discuter autour d'un thé. La souveraine souhaite qu'il escorte une princesse en territoire ennemi et pour y dérober un artefact. En échange, elle lui offre la résurrection de sa compagne. Évidemment, la reine est maléfique et nourrie de sombres desseins. Bien plus qu'une réflexion nietzschéenne sur la vengeance, Conan le Destructeur ressemble plus à de la fantaisie de bande dessinée avec plus d'effets spéciaux et de monstres dont le trait Lovecraftien Dagoth que je trouve plutôt réussi. Cependant, le film manque un peu de souffle que pourrait pourtant lui procurer une esthétique soignée, celle de la direction de la photographie en scope de Jack Cardiff, mettant en valeur des décors naturels. La faute aussi à la musique de Basil Paul Douris, à laquelle un petit orchestre ne rend pas justice. Quelques autres défauts peuvent quant à eux faire sourire. Certes, les scènes d'action sont plutôt malassonnes. La crédibilité d'Arnold Schwarzenegger en tant qu'acteur en prend un sérieux coup, surtout quand il essaye de jouer un homme fin sou ou quand ce ne sont pas des gros plans sur son visage qui mettent en évidence son admirable palette d'expressions. En même temps, tout cela participe au capital sympathie de ce film d'aventure fantastique inégal qui pourrait être un bis italien et qui n'a pas d'autre prétention que de faire passer un bon moment. Donc, Conan le Destructeur est sorti en Blu-ray chez BQHL.
Je vais quitter BQHL, moi, pour aller chez nos amis d'Extra Lucide Film, et vous parler d'un film qui a marqué son époque, qui s'appelle L'Enfant miroir, un film de Philippe Ridley, un film de 1990, qui est vraiment un film qui a totalement traumatisé toute une génération de cinéphiles, qui est le premier des trois films de Philippe Ridley. Alors on apprend, parce que les bonus sont très fournis dans cette édition Extra Lucide Film, on apprend dans les bonus que Philippe Ridley a toujours voulu avoir le director's cut. Donc en fait, du coup, il a fait que trois films depuis 1990. Il a fait aussi Darkly Noon en 1996. Et enfin, il a fait Heartless en 2009. Trois films excellents, trois films qui se rejoignent thématiquement, trois films esthétiquement passionnants. Bon, le dernier un peu moins bien que les deux premiers, mais ça reste quand même trois films exceptionnels. Et un artiste incroyable. D'ailleurs, dans un des bonus, il y a une longue discussion avec Viggo Mortensen en visioconférence. D'ailleurs, c'est assez marrant. Et Viggo Mortensen, qui a été faite hein, pour l'édition, là, par Patrice Berry et Karine Bach. Et Viggo Mortensen explique bien que durant cette discussion, que Philippe Ridley, c'est un grand artiste, un grand metteur en scène, et qu'il n'a pas eu le succès qu'il méritait. Et il balance un truc, hein, quand même, sur Darkly Noon, que l'acteur principal de l'époque a, il y avait une clause dans son contrat à Brendan Fraser qui pouvait permettre à Brendan Fraser d'interdire la sortie du film sur le territoire américain. Et il a interdit la sortie du film sur le territoire américain. Du coup, Mortensen explique, il balance hein, Viggo hein, quand même. Viggo Mortensen explique que, en fait, du coup, ça flinguait la carrière commerciale du film. Et qu'en plus, c'est bête parce que c'était certainement la fois où Brendan Fraser a joué son meilleur rôle. Donc, du coup, Mortensen défend bec et ongles son cinéaste, Philippe Ridley, qui l'a. Lui donne quand même un rôle intéressant, surtout qu'à l'époque, Viggo Mortensen, en 90, il est tout jeune, et on avait pu l'apercevoir dans Witness, par exemple, de Peter Weir et tout, c'était des seconds rôles, mais c'était pas une star, c'était pas une vedette, pas vraiment devenu une star aujourd'hui, mais en tout cas, c'est devenu un acteur adulé par une partie de l'intelligentsia et par, aussi tout un pan des fans de cinéma de genre, mais aussi de cinéma d'auteur, hein, en particulier grâce à son travail chez Cronenberg, hein, History of Violence, entre autres. Et là, dans ce film-là, c'est un film au pitch très simple. On est à travers le regard d'un enfant, les yeux d'un enfant. C'est un enfant un peu farceur. Alors, des farces, pas toujours de bon goût, hein, quand même. Hein, du style, je gonfle à mort une grenouille avec une paille. Et puis, avec un lance-pierre, je lance une pierre dessus. Comme ça, la grenouille éclate au visage de la personne qui se penche pour regarder la grenouille, cette personne se retrouvant ensanglantée. Ce qui le fait beaucoup rire, parce que c'est une petite arsouille, ce garçon. Et on est dans les années 50, on s'amuse comme on peut. Hein. On est dans la campagne, on est chez les rednecks, encore une fois, là, dans la campagne profonde américaine. Et lui, c'est un gamin un peu rêveur. C'est marrant parce que le film est vraiment à hauteur d'enfant. En fait, il est vraiment, alors pas dans la mise en scène, hein, qui est ample, qui est lyrique, qui est incroyable. Le film démarre par des plans très très beaux dans un champ complètement mordoré comme ça. Alors on apprend via les bonus qu'en fait le réalisateur Philippe Ridley, donc qui est dramaturge en fait et qui fait surtout donc du théâtre et qui du coup fait pas beaucoup de cinéma, fait repeindre à la bombe de peinture le champ pour qu'il ait cette couleur mordorée, parce que bon bah en fait c'est un esthète, c'est quelqu'un qui fait pas ses effets en post-production, tout ça. Un film comme ça aujourd'hui serait totalement revu en post-production, ça aurait un petit côté Tarsem Singh, un peu un cinéaste qu'on a un peu oublié aujourd'hui, mais qui faisait des films comme ça avec une esthétique très particulière. Et là là on a vraiment quelque chose d'une grande beauté plastique, mais qui est complètement fait en direct, en live, je veux dire, quoi. Voilà, quand c'est filmé. Alors, ce petit garçon, il va voir son monde s'écrouler, en fait. Il a son frère qui est sur le front. Je pense qu'il est en Corée à cette époque-là. Il vit avec sa mère à Cariâtre, qui est toujours de mauvais poil. Son père, très étrange, qui est toujours en train de lire des livres, qui tient la station-service, où il n'y a jamais grand monde. Il a une voisine dont il est persuadé qu'elle est un vampire. Bon, il est persuadé que cette voisine est un vampire. Il en est sûr et certain. Voilà. Et à partir de là, va se construire un film qui est sous la forme d'un conte, qui va être un comment dire qui va être un
un film sur l'enfance qui n'a pas beaucoup d'équivalent. En fait, on pense par exemple à L'Autre de Robert Mulligan, où il y a vraiment un peu ce même type d'ambiance, à la fois esthétique, mais en même temps, le film a un côté irréel tout du long, en fait, tout en étant en fait totalement réel. Et ce qu'il va voir est quelque chose d'assez terrible, parce qu'il va voir tout son monde s'écrouler, vraiment tout son monde. Il y a toute une bande de loubards qui passe. À chaque fois que la bande de loubards passe, il y a un de ses potes qui se fait enlever, qui revient jamais, enfin qu'on retrouve mort. À un moment, son père, il y a un de ses potes qui disparaît. Comme son père a eu des tendances homosexuelles, son père est forcément soupçonné, parce que dans les années 50, être homosexuel, c'est forcément être aussi un pédophile et donc un tueur d'enfants en puissance. Et donc, il va s'immoler devant lui, d'une manière très particulière, en plus, en faisant une sorte de fellation au départ à son pistolet de la pompe à essence, pour avaler de l'essence. Enfin, vraiment, il va voir des choses assez horribles. D'ailleurs, à un moment, l'un de ses amis qui a disparu, qui est mort, il va être persuadé que, en fait, cet ami est devenu un ange. Et comme à l'époque, l'avortement était strictement interdit, enfin, à l'époque, depuis que Trump est revenu, il y a pas mal d'États où c'est de nouveau interdit, eh bien, en fait, il va trouver un enfant mort-né dans une grange. Et il va le garder avec lui en pensant que c'est son pote, c'est son ange. Il y a des trucs assez glauques, hein, dans le film. Et le film va comme ça continuer à évoluer. Alors en plus, il y a un sens de l'esthétique qui est très fort. Par exemple, ses deux parents sont les sosies des deux personnages du tableau American Gothic de Grant Wood. Mais vraiment, physiquement, c'est les deux sosies.
On vous rappelle donc que L'Enfant miroir de Philippe Ridley, un film culte de 1990, est disponible chez Extra Lucide Film. Quelques années plus tard, alors là on va passer du cinéma intimiste au blockbuster, hein, quelques années plus tard, donc on est en 1994, et il y a Peter Yams qui signe donc Time Cop, qui vient de ressortir dans une très belle édition chez ESC. Peter Yams, c'est quand même un réalisateur qui a signé au moins trois classiques du cinéma de genre, à savoir Presidio avec Sean Connery, et puis surtout deux films bien particuliers, Capricorn One, qui peut toujours faire la joie aujourd'hui de tous les complotistes de tout poil, et l'excellent pour moi son meilleur film, Outland, avec Sean Connery, hein, très très bon film de SF qui transpose l'univers du western dans la science-fiction. Et il fera aussi, d'ailleurs, aussi un autre film avec Jean-Claude Van Damme, qui est peut-être l'un des tout meilleurs avec Jean-Claude Van Damme, qui est Mort subite, avec des scènes très, très spectaculaires. Alors là, dans ce film-là, Time Cop, c'est un film donc de 94, et on est dans le futur, donc on est en 2004. C'est comme ça. Et en 2004, eh bien, les amis, figurez-vous qu'on voyage dans le temps. On voyage dans le temps, et puis il y a une police. Il y a une police pour contrôler ces voyages dans le temps, parce qu'il y a les petits malins. Il y a les petits malins qui s'amusent à, du coup, aller dans le passé pour faire des cambriolages, pour profiter, par exemple, de la crise de 1929. Ça donne lieu à une scène assez étonnante au début. Et en fait, c'est pour en tirer profit. Hein, la plupart en tirent profit. D'ailleurs, le film débute. On est dans le passé. On est au moment de la guerre de sécession. Et puis, ils braquent, en fait, un convoi plein de lingots d'or de nordistes. Et sauf que le type qui les braque, il a un énorme flingue du futur pour eux, quoi. Donc les soldats lui disent non, mais on va pas te laisser notre or, t'es tout seul. On est 15. Sauf que lui, il sort un Uzi ou une mitraillette de dingue, je sais pas quoi. Enfin bref. Et parce qu'on est dans 2004, on est dans le futur, je vous rappelle. Donc les flingues ont aussi vachement évolué. Et donc il flingue tous les mecs d'un coup. Puis évidemment, il repartira avec l'or. Et donc la commission qui gère ces voyages dans le temps, elle est gérée par un sénateur qui est en fait un ripou. Hein, un ripou qui, évidemment, veut accumuler de l'argent pour pouvoir devenir calife à la place du calife, c'est-à-dire pour pouvoir devenir le président des États-Unis. Et Jean-Claude, notre ami Jean-Claude Van Damme, lui, il file le parfait amour avec la très très jolie Mia Sara. Et puis, il se trouve que un jour, Mia Sara, elle est assassinée par des brigands, par des voyous. Et on interdit aux flics du temps, donc à Jean-Claude d'aller dans le passé pour changer le passé. Alors il vit avec ça sur la conscience, il est terriblement malheureux, mais petit à petit il va comprendre que le sénateur qui gère donc cette entreprise de voyage dans le temps est un type malhonnête et il va finir par y retourner dans le passé pour sauver sa belle et laver l'honneur de l'Amérique, excusez-moi messieurs dames. Donc voilà, c'est un film assez chouette, c'est un film assez rythmé, on s'ennuie pas une seconde. Alors, il y a quelques incohérences dans le scénario puisque bon, il y a des choses qu'on peut faire dans le passé, pas faire, que Jean-Claude se permet de faire, et pour lui, ça n'a pas beaucoup d'incidence. Pour d'autres, c'est la mort directe. Enfin, il y a des trucs comme ça. Il y a aussi des événements qui changent dans le passé, qui normalement devraient influer donc, sur son nouveau présent, qui n'influent pas de la même manière, selon que ce soit tel ou tel protagoniste qui influe sur les événements. Ça paraît pas clair ce que je dis. Voyez le film, c'est pas toujours très clair. D'ailleurs, le film démarre par trois voyages spatio-temporels. Mais ça, un peu étrange, parce qu'il n'y a pas vraiment de Le lien, on va le faire après. Mais tout cela est très agréable, très bien ficelé. Jean-Claude Van Damme est en grande forme. Il fait des grands écarts en slibard avec coupe mulet sur son évier pour éviter les projectiles des méchants. Et ça tape dur. Franchement, je dis ça avec humour, mais moi, j'ai passé un bon moment. J'ai revu ce Van Damme. Ça fait partie des vraiment des bons Van Damme. On est en 94 à l'époque. Van Damme, il a vraiment le vent en poupe. Pour prendre une petite dose de Jean-Claude au sommet de sa forme, mise en scène par un réalisateur qui est loin d'être un manchot derrière une caméra, en l'occurrence Peter Yams, je vous conseille de revoir ce Time Cop qui est sorti dans une très très belle copie par ESC Éditions. Écoutez Culture Prohibée. Beaucoup moins drôle que Time Cop. On va maintenant basculer du côté de la mort. Et oui, on va aller chez David Cronenberg, qui met en scène donc Les Linceuls, qui est disponible chez Pyramide Film. N'est-ce pas, mon cher Thomas ?
Avec David Cronenberg, on rigole pas des masses, hein. On rigole pas tous les jours. Parce qu'en plus, David Cronenberg, il y a 8 ans, il a perdu son épouse, Caroline Cronenberg. Et donc, ça se ressent dans son 23e long-métrage, qui est une œuvre aussi personnelle qu'elle fait office de catharsis. Hein. Les Linceuls, qui est sorti cette année en salle, et qui sort là en DVD Blu-ray chez Pyramide. Et à l'écran, Karch, un homme d'affaires innovant et veuf et pleuré, prend les traits de Vincent Cassel, véritable alter ego du réalisateur. L'homme, ne se remettant pas de la mort de son épouse, construit un dispositif permettant de communiquer avec les morts à l'intérieur d'un linceul funéraire. À travers cette histoire se dessine la psyché de David Cronenberg, travaillé par un deuil impossible, dans un film à mi-chemin entre l'anticipation et le fantastique. Bien évidemment, on retrouve les différentes thématiques chères au cinéaste et le film se rapproche beaucoup de Existence, où la frontière entre le réel et l'imaginaire est ténue et dans laquelle s'insinuent des complots, tous aussi plus tordus les uns que les autres. Mais il n'y a pas de pizzeria. La représentation du corps supplicié transformé occupe une grande place dans cette méditation sur le rapport à la mort, à la technologie et aux problèmes éthiques de la protection de la vie privée, aux problèmes écologiques que soulève le tout connecté. Dans ce travail de deuil impossible, qu'est-ce qui manque le plus aux veufs ? La personne ou alors juste son corps, le fait de ne plus pouvoir le toucher, le caresser. À partir de là, David Cronenberg évoque une étrange relation où l'amour ne s'éteint pas avec la mort et devient, se transforme en fascination pour les corps pourrissants. Pour Karch, il est impossible de se détacher de l'enveloppe charnelle de son épouse. Par là, le cinéaste semble demander jusqu'où va le désir d'entretenir un lien avec les morts. On pourrait reprocher au film d'être bavard, mais le scénario s'avère riche et passionnant pour les raisons que je viens d'évoquer. Et pour ce dernier film, qui est pour moi un grand Cronenberg, la réalisation renoue avec une forme lente et aussi élégante qu'épurée, dénuée de tout effet spectaculaire. Les personnages évoluent dans des décors anachroniques et minimalistes aux contours rectilignes, où se mêlent esthétique futuriste et style beaucoup plus ancien. Impossible alors de situer l'intrigue dans le temps, sommes-nous un futur proche ou à notre époque ? La confusion est soigneusement entretenue. Même si le film peut paraître sordide, en même temps, David Cronenberg signe une belle lettre d'amour à sa défunte épouse, aux femmes en général, une manière très personnelle de dire adieu à son épouse, dans une œuvre qui est aussi personnelle et passionnante. Et donc je rappelle que Les Linceuls de David Cronenberg est sorti aux éditions Pyramide Film.
C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone et Radio Graphite. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone. Une émission animée avec Damien Demey, dit La Bête Noire de Compiègne, Thomas Roland, dit Le Loup-Garou Picard, and the last but not the least, je veux bien sûr parler de Léomania à la technique. Salut les gens, à la prochaine.